c'est l'été sur France Culture. La radio se fait musicale et toujours informative avec le journal. Et le journal de la rédaction à 12h30 vous est présenté par Camille Magnard. Bonjour.
Bonjour à tous. La République n'a pas à combattre une religion. À Saint-Étienne-du-Rouvray, un an après, Emmanuel Macron loue l'esprit de pardon des catholiques et la solidarité entre les cultes. Commémoration suivie pour nous par Jean-François Fernandez. C'est désormais une certitude, la saison 2017 aura été particulièrement intense sur le front des feux de forêt dans le sud-est de la France. Reportage d'Adrien Toffolet à suivre à Bormes-les-Mimosas. Analyse des causes de cette recrudescence avec Marie-France Abastado. Une police qui harcèle, qui maltraite de manière gratuite et systématique les migrants à Calais. Voilà ce qui ressort d'un rapport de l'ONG Human Rights Watch. Sa directrice pour la France, Bénédicte Jeannereau, sera notre invitée. La France qui tente de tordre le bras à l'Italie sur le rachat des chantiers navals de Saint-Nazaire. Explication de Fiona Mogadam. Et les États-Unis qui réfléchissent à livrer des armes à l'Ukraine contre les séparatistes soutenus par Moscou. Ce sera une correspondance depuis Kiev de Stéphane Sioan. À 12h45, la grande table d'été. Quel est le programme, Martin Kenéen?
Eh bien Camille, il s'agit d'attacher sa ceinture et de protéger ses oreilles puisque nous allons décoller dans l'hyperespace, hein, l'espace interstellaire avec Pierre Christin, scénariste, auteur de la fameuse série en bande dessinée Valérian et Laureline qui a inspiré Luc Besson pour son nouveau blockbuster, et avec Caroline de Kergariou qui signe chez Perrin No Future, une histoire du punk.
À tout à l'heure. C'était donc il y a un an, l'image d'une petite église à la une de tous nos journaux. Un clocher paisible où venait de frapper à nouveau la terreur djihadiste. Deux hommes, 19 ans, entrés en pleine messe, avaient poignardé à mort le vieux père Jacques Hamel. Quelques jours après l'attentat de Nice, les appels à l'Union nationale derrière les représentants unis des différentes religions avaient marqué les esprits. Et c'est aussi cela que l'on commémorait ce matin dans la ville normande. Bonjour Jean-François Fernandez.
Bonjour Camille.
Vous avez suivi ces commémorations à l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray en présence du chef de l'État, mais surtout de très nombreux habitants, toujours marqués par ce qui s'est passé, par la personnalité du père Hamel.
Oui, ce moment de recueillement, cet hommage était une étape, un moment attendu par de nombreuses personnes, de nombreux paroissiens dans le public, des paroissiens de Saint-Étienne, mais aussi des habitants des communes voisines.
Je suis catholique, pratiquante, mais je suis heureuse d'être parmi tout le monde et avec spécialement les musulmans. Donc pour moi, c'est un très beau moment de fraternité, l'amour plus fort que la haine.
Alors tous le disent, bien sûr, il faut pardonner, mais pour ce jeune catholique de la paroisse, le pardon est parfois difficile.
C'est une étape de deuil, ça va mettre plus de temps à passer qu'un deuil normal. Il faut pardonner, mais c'est plus facile de pardonner une bagarre entre deux jeunes à l'école que ça.
Ici, le père Hamel est présent dans tous les cœurs. Cette dame a une photo du prêtre sur sa cheminée. Elle lui parle tous les jours et ce matin encore, elle lui a dit:
vous, vous êtes là-haut, mais moi j'ai mes jambes, mais est-ce qu'ils vont pouvoir y aller? Avant de partir ce matin, je lui ai dit, même en marchant, je disais, bon, on m'a fait faire tout le grand tour. J'ai dit, bah père, c'est pour vous que je marche. Jamais j'ai autant marché depuis des mois.
Les proches de la paroisse et la famille partagent en ce moment même un repas. L'hommage se termine avec un recueillement à 18h sur la tombe du père Hamel.
Jean-François Fernandez à Saint-Étienne-du-Rouvray. Merci également à Jean-André Gianecchini pour la liaison technique. Dans le sud-est de la France, il n'aura pas fallu plus de 3 jours pour que la situation bascule sur le front des feux de forêt. Dans le Var, le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône, les départs d'incendies se sont multipliés et très rapidement s'est retrouvé avec plus de 5000 hectares déjà de végétation détruite. 10 000 personnes ont dû être évacuées cette nuit quand les flammes se sont rapprochées des maisons près de Bormes-les-Mimosas dans le Var, où se trouve notre envoyé spécial Adrien Toffolet.
Au niveau du poste de commandement ce midi, peu importe où l'on tourne la tête, on voit plusieurs nuages de fumée s'échapper dans le ciel. Les feux sont encore virulents, alimentés par des vents forts, et les pompiers travaillent d'arrache-pied pour les contenir. 560 hommes répartis en 25 groupes quadrillent le territoire, et malgré la fatigue, le commandant Serge Lavial, en charge des opérations de secours, est confiant.
La fatigue, bien entendu, au bout d'une nuit donc d'attaque sur les feux de forêt dans un massif inaccessible, donc les hommes sont obligés de tirer des tuyaux de grande longueur jusqu'à 800 mètres, ce qui veut dire que la fatigue s'accumule et puis les gens sont fatigués, mais on est là pour traiter le feu et il sera traité jusqu'à ce soir, jusqu'à demain et après demain s'il le faut.
Heureusement ce matin un renfort aérien est arrivé et arrose incessamment la zone, des canadairs, des hélicoptères, bombardiers, mais c'est insuffisant selon Renaud Muselier, le président Les Républicains de la région PACA, en appelle même au président de la République.
Moi pour ma part, j'ai saisi le président de la République en ce qui concerne les moyens aériens. Je fais un constat simple, nos canadaires sont vieux, nos canadaires sont usés, et nos canadaires s'arrêtent les uns derrière les autres. Donc il faut en commander. Pour en commander, il faut au minimum 25 de commandes, et donc il faut qu'on le fasse avec les autres pays européens. Voilà. Et donc ça, il faut prendre ce problème à bras le corps, parce que vous épuisez vos hommes, mais vous les mettez en danger.
Mais sur le terrain, rien ne serait possible sans la présence des bénévoles. Ils sont plus de 5000 à faire le guet et à ravitailler les équipes sur tout le département.
Adrien Toffolet avec les moyens techniques d'Éric Audra dans ce département du Var où l'on parle déjà de catastrophe écologique. Bonjour Marie-France Abastado.
Bonjour.
En quelques jours, donc, la France se retrouve face à des feux de forêt qu'elle a du mal à gérer vu leur ampleur, leur vélocité. Alors le phénomène n'est certes pas nouveau en cette saison, mais il a une fâcheuse tendance, il faut bien le dire, à se généraliser et à s'étendre, pas seulement en France.
Oui, effectivement, il y a bien sûr les causes humaines des incendies. 95% des feux sont déclenchés par des personnes, mais les conditions météorologiques favorables expliquent aussi la propagation à grande échelle des feux de forêt. Cette année, par exemple, l'intense sécheresse dans le sud du pays ainsi que des vents violents ont largement contribué à aggraver les incendies. Mais il faut aussi tenir compte de la météo des années passées. La sécheresse de l'an dernier a laissé au sol des forêts une grande quantité de feuilles et de bois morts qui forment un excellent combustible. Christian Pinaudeau, secrétaire général de l'Union des sylviculteurs du sud de l'Europe, explique ce qui, outre la densité croissante de population, favorise la recrudescence des feux de forêt.
Vous avez indéniablement des conditions météo avec le changement climatique qui sont des facteurs aggravants, sachant qu'il y a des périodes de chaleur qui sont plus longues qu'avant, plus dures qu'avant au sens où on a souvent des canicules aujourd'hui sur des courtes durées. Et donc ces deux facteurs, l'augmentation de la démographie d'une part, le changement climatique d'autre part, font que vous avez des risques en augmentation dans toute l'Europe.
Les zones à risque ont tendance à remonter vers le nord en France, mais aussi à s'étendre à d'autres pays d'Europe de l'Est, comme la Roumanie et la Hongrie, dont le territoire est maintenant presque entièrement considéré comme zone à risque.
Marie-France Abastado, merci pour toutes ces précisions. Midi passé de 37 minutes sur France Culture. Accueillir les réfugiés, c'est un défi immense qui demande une immense humanité. C'est le discours prononcé hier par le chef de l'État, Emmanuel Macron. Et la réalité livrée par ce rapport de l'ONG Human Rights Watch sur les pratiques policières à Calais. Vivre ici, c'est comme vivre en enfer. Voilà ce qui disent les migrants qui témoignent de ces mauvais traitements, humiliations commis sur eux par des CRS. Ce gaz au poivre utilisé sur les adultes et les enfants dans leur sommeil, pulvérisé sur leur nourriture, les sacs de couchage ou les tentes confisquées sans aucun motif légal. Nous sommes en ligne pour en parler plus longuement avec la directrice France de Human Rights Watch. Bonjour Bénédicte Jeannereau.
Bonjour.
Alors ce que décrit votre rapport, c'est un véritable harcèlement illégal auquel se livrent les policiers contre les migrants de Calais. C'est cela selon vous ?
Oui, c'est exactement ce que nous avons documenté lors de notre enquête fin juin et début juillet sur des pratiques que nous qualifions de routinières et d'usage de ce gaz poivre contre des migrants et demandeurs d'asile, qu'ils soient adultes ou enfants. Et qui sont des pratiques absolument inacceptables et illégales au regard des obligations de la France. Nous documentons également le fait que des travailleurs humanitaires qui sont là pour délivrer une assistance vitale à ces personnes sont elles-mêmes harcelées à travers des contrôles d'identité répétitifs.
Des associations qui apportent par exemple de la nourriture et qui sont empêchées de travailler ?
Voilà, des associations qui apportent de l'eau et de la nourriture à des personnes qui sont dans le besoin et qui se voient, eux aussi, entravées, empêchées de faire leur travail.
Alors Bénédicte Jeannereau, je citais en ouverture ces mots d'Emmanuel Macron, les valeurs affichées dans les discours officiels, l'immense humanité pour relever ce défi de l'accueil des réfugiés. Dans la pratique, à Calais, la situation, elle a évolué, selon vous, depuis l'arrivée du nouvel exécutif ?
Il y a un énorme décalage qui est incompréhensible entre des paroles très fortes du président de la République sur les devoirs de la France et sur les devoirs d'humanité de la France en direction de ces personnes migrantes ou demandeurs d'asile et la réalité des faits que nous avons documentés à Calais. En plus, le travail que nous avons fait s'ajoute à différentes dénonciations qui ont été déjà faites par d'autres acteurs humanitaires, par le Défenseur des droits très récemment. Et donc on attend maintenant que le président Macron et que le gouvernement envoie le signe et affirme que ces abus sont intolérables et ne peuvent pas avoir lieu au sein des forces de police françaises à l'égard de ces personnes en grande détresse.
Merci beaucoup Bénédicte Jeanneret, donc directrice France de l'ONG Human Rights Watch. Ce rapport, il est à retrouver sur votre site hrw.org et j'indique que le président de la République Emmanuel Macron va se rendre demain, un déplacement dans le département du Loiret avec le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb sur à la rencontre justement de familles de réfugiés qui sont accueillies dans un centre provisoire d'hébergement. La suite de l'actualité, c'est ce que l'on pourrait appeler changer les règles du jeu juste avant la fin de partie. Le gouvernement français veut imposer un nouveau montage financier à l'Italie et à sa société Fincantieri qui doit racheter les chantiers navals de Saint-Nazaire. Sous François Hollande, les deux parties s'étaient entendues sur un montage où les Italiens auraient une majorité des parts. Mais depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron, Paris en fait une question de patriotisme économique. Bercy veut donc revenir à un actionnariat à 50-50, au point d'évoquer la possibilité de reprendre le contrôle à 100% des chantiers si les Italiens n'acceptent pas. C'était ce matin Bruno Le Maire sur France Info.
L'État, si jamais nos amis italiens refusent la proposition honnête qui leur est faite de travailler main dans la main, d'égal à égal, 50-50, sur le chantier de Saint-Nazaire STX, si nos amis italiens refusent, l'État exercera son droit de préemption.
Droit de préemption, donc ça veut dire concrètement renationaliser temporairement les chantiers navals, le temps de trouver d'autres acquéreurs. Bonjour Fiona Mogadam.
Bonjour.
On a entendu Bruno Le Maire, ça ressemble bien à un ultimatum pour les Italiens. Ils ont encore quelques heures pour se décider et ils ne semblent pas prêts de céder.
Effectivement, alors l'Italie veut bien discuter, mais elle pose deux conditions. La majorité pour Fincantieri au capital des chantiers STX, même une faible majorité à 51% par exemple serait suffisante selon le patron de Fincantieri. Autre condition, le contrôle du conseil d'administration pour assurer une gouvernance adéquate. Ça risque donc de coincer avec ce revirement du gouvernement français, revirement qui n'en est en fait pas vraiment un, puisque en mai dernier déjà, le président de la République, alors en visite sur les chantiers navals de Saint-Nazaire, avait déclaré « Je souhaite que les équilibres de principe définis puissent être revus ». Emmanuel Macron entendait donc revenir sur l'accord conclu sous François Hollande. En échange d'un nouvel accord à 50-50, la France propose à l'Italie de renforcer sa coopération dans le domaine naval militaire, ce qui voudrait dire que Français et Italiens pourraient ainsi concevoir des bateaux militaires ensemble. Si la France ne veut pas d'une majorité pour Fincantieri au capital de STX, c'est parce que Saint-Nazaire, c'est un site industriel stratégique où peuvent être construits des paquebots, mais aussi des porte-avions. Il y a donc une volonté du gouvernement de sécuriser l'outil industriel. Fincantieri, c'est un groupe public italien, c'est aussi un concurrent historique au chantier naval français. Et si aujourd'hui les carnets de commandes sont pleins partout, on ne sait pas ce qui peut arriver à l'avenir. Selon des spécialistes du secteur, en cas de coup dur dans le futur, Fincantieri pourrait alors privilégier ses chantiers en Italie au détriment des chantiers français. Et puis il y a aussi la crainte d'un transfert de technologie à la Chine, puisque le groupe italien a récemment signé un accord pour la construction de 2 navires de croisière en Chine.
Fiona Mogadam, merci. C'est un bras de fer donc entre la France et l'Italie qui devrait se réglé d'ici à la fin du mois, donc il reste quelques jours. Sur le papier, voilà qui ressemble à une très bonne nouvelle pour les salariés de l'usine Team dans le nord, près de Dunkerque. Leur entreprise qui fabrique des cabines pour engins de chantier échappe à la liquidation. Elle est reprise par l'industriel bulgare Phil Filipov. Team qui emploie 470 personnes et le groupe Atlas, donc de Filipov, qui s'engage à conserver 446 postes. En Afghanistan, la marque des talibans sur cette attaque contre une base militaire près de Kandahar, elle a fait au moins 26 morts et 13 blessés parmi les soldats. Une attaque massive, les autorités afghanes affirment qu'elles ont tué 80 insurgés en repoussant l'assaut. Les États-Unis, eux, vont-ils livrer des armes à l'Ukraine dans son conflit larvé contre les séparatistes pro-russes? La question était taboue sous l'administration Obama, elle ne l'est apparemment plus sous Trump face à l'impuissance de la diplomatie, ces accords de Minsk qui n'arrivent pas à ramener la paix dans l'Est ukrainien. Washington semble prêt à faire bouger les lignes. Explication depuis Kiev de Stéphane Sioran.
Depuis que les tanks de l'armée russe sont intervenus dans le Donbass en 2014 et en 2015, notamment lors des batailles d'Ilovaïsk et de Debaltsevo, une des priorités de la diplomatie ukrainienne est d'acquérir des systèmes anti-chars. En l'occurrence, des lance-missiles portatifs de type Javelin qui permettraient de percer les blindés russes fournis en très grand nombre aux forces hybrides séparatistes et russes. Barack Obama a toujours mis son veto à ces livraisons d'armes, craignant sans doute d'entraîner le conflit dans une autre dimension. On aurait pu croire Donald Trump à son tour très prudent, mais son nouveau représentant pour l'Ukraine, Kurt Volker, un ancien ambassadeur à l'OTAN très proche du sénateur John McCain, vient de déclarer à la BBC que le département d'État réfléchissait de nouveau à l'idée de livrer des armes défensives à l'Ukraine. Un scénario qui permettrait, selon lui, de rééquilibrer le conflit, rendant le coût de la guerre trop élevé pour la Russie, qui serait alors dissuadée de déstabiliser son voisin. En corollaire, le risque de surenchère militaire serait également très élevé, mais pour le clan Trump, l'avantage serait également politique. En effet, une telle décision lui permettrait de se montrer moins aligné sur le Kremlin que ne le laissent penser les scandales actuels qui secouent le premier cercle de la Maison-Blanche.
Stéphane Sioux, dans le ciel français, la part belle aux accalmies cet après-midi. Des orages à craindre tout de même sur les Pyrénées et la Corse et les nuages qui persistent sur le nord et l'est. Les températures sont comprises entre 19 et 24 degrés, sauf en Provence où l'on atteint les 30 degrés cet après-midi. Ce journal de midi 30 était réalisé avec François-Charles Domergue. Prochain rendez-vous à 18h sur France Culture.